Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Clairoy, à la mairie de Clairoy, avec Sarah Bonenfant du CPIU de l'Oise, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Et il va y avoir une conférence autour du potager en agroécologie. Vous pouvez déjà nous parler du CPIE, nous dire quelques mots sur...
Oui, alors le CPIE, c'est une association. En fait, c'est une association qui se fait labelliser. Nous, à la base, on s'appelle Cherche Nature et on s'est fait labelliser CPIE. CPIE, il y en a un peu partout en France. Il y en a dans quasiment chaque département de France. Et on a deux grands domaines de compétences. Le premier, c'est l'éducation à l'environnement. Donc les conférences qu'on fait comme ce soir, ça rentre dans ce domaine-là. Et puis, on fait aussi, on intervient en tant qu'expert de l'environnement auprès des collectivités locales pour les aider à gérer plus durablement leur territoire.
Aujourd'hui, donc, c'est le potager en agroécologie. Racontez-nous ce que c'est que l'agroécologie.
Alors, l'agroécologie, en très résumé, parce que c'est très complexe en vrai, hein, mais en fait, c'est qu'on va s'inspirer de ce que fait la nature pour le reproduire en agriculture. Ça ressemble à la permaculture, dont on entend beaucoup parler, pas mal de personnes maintenant connaissent ce que c'est. La seule différence qu'il y a, c'est que la permaculture, il y a tout un pan plus basé sur les énergies de la terre, sur le calendrier lunaire, etc. Chose qu'en agroécologie, on ne pratique pas du tout. L'agroécologie est vraiment basée 100% sur des choses scientifiques.
Et donc, potager en agroécologie, ça donne quoi ?
Le principe, c'est de travailler sur sol vivant. Donc, on va pas faire tout ce qui est travail du sol, retourner la terre, etc. On va faire en sorte, en fait, que nos sols soient le plus vivants possible et attirer le plus de vie possible. Et toute cette vie qui viendra dans ce sol va travailler le sol à ma place, en fait. Va le verticaliser, va l'aérer, va le décompacter. Et après, on travaille bien évidemment qu'avec des amendements, donc des engrais, si on peut dire, mais que naturels, donc du compost, du fumier, des choses comme ça. Tout est 100% naturel. Et on étudie vraiment ce qui se passe dans la nature pour reproduire ce cycle naturel, mais en cultivant.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous voyez dans la nature et de ce que vous allez faire dans votre jardin, en fait ?
Ben, l'exemple de base, ça peut être, j'en parlais notamment ce matin avec des enfants, ça va être le compost, en fait, tout simplement. Alors après, on peut le faire aussi en dehors de l'agroécologie, mais en agroécologie, on l'utilise énormément. C'est que la nature, qu'est-ce qui se passe ? Un arbre, à l'automne, les feuilles tombent. Les feuilles, elles vont tomber au pied de l'arbre. Tous les petits décomposeurs du sol vont venir consommer cette matière organique et vont la relâcher, la rejeter en nutriments directement possibles pour la plante. Nous, quand on cultive, le problème, c'est que cette matière organique, en fait, on la retire parce qu'on va la manger. Donc, en faisant du compost, en fait, on vient redonner à la terre une partie de ce qu'on lui a volé, en fait.
N'importe quel jardinier peut faire son jardin en agroécologie.
Oui, oui, c'est même plus facile en fait. Il y a des personnes qui rencontrent des fois des écueils en essayant de reproduire le jardin qu'ils ont vu leur grand-père faire, par exemple. Parce que c'était beaucoup de travail du sol, sans arrêt des herbes, etc. En agroécologie, justement, en fait, c'est une façon de faire où si on n'a pas beaucoup de temps... une fois que le potager est lancé, bien évidemment, une fois qu'il est lancé, on va pouvoir un peu s'absenter, on va pouvoir éviter d'y aller tous les jours parce qu'on va mettre par exemple un système de paillage sur le sol qui va faire que j'aurai besoin de moins arroser, qui va faire que les mauvaises herbes vont moins pousser et qui va fertiliser le sol parce que ce paillage va être consommé. Donc en fait, tout le monde peut se lancer et même en fait, moi je le conseille plutôt aux débutants parce que moi je trouve ça beaucoup plus simple.
Et si on ne suit pas une conférence organisée par le CPIE, je suppose qu'on peut trouver des manuels, des choses sur Internet, etc.
Oui.
Pour commencer son potager.
Il y a énormément de livres sur le sujet. Il y en a des très simples pour les débutants. Il y en a qui sont beaucoup plus poussés pour si on veut s'installer en tant que professionnel. Mais on peut s'y inspirer aussi en tant que particulier. Et après, sur Internet, sur YouTube, moi, c'est là où j'ai... Quand j'ai commencé, je me suis beaucoup formée, si on peut dire, grâce à ces vidéos. Il y a plein de chaînes. Par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Vers de Terre Production, qui fait énormément de vidéos, qui fait des vidéos très techniques, mais aussi très simples. Et après, simplement, en tapant le mot-clé « potager agroécologique » sur Internet, bon, c'est une mine d'informations. On trouve énormément de choses.
Comment on fait pour avoir toutes les dates, en fait, de conférences organisées par le CPIE ou d'ateliers ?
Alors, on va simplement sur notre site Internet. Donc, c'est www.cpie60.fr. Et il y a notre agenda en ligne, en fait. Donc, on clique sur l'agenda. Ça figure en couleur. Il y a un petit carré de couleur qui apparaît à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur une date. On clique et ça nous explique ce qui se passe, où et quand.
Vous organisez beaucoup d'événements de ce style à l'année ?
Oui, toute l'année. Moi, par exemple, sur ces conférences-là, donc je fais conférence agroécologie et conférence alimentation durable. Là, en ce moment, j'en ai quasiment une minimum une par semaine, même voire plus. On fait des sorties nature aussi. où on apprend la botanique, où on apprend des choses sur les chauves-souris, on fait des chantiers participatifs, des choses comme ça.
Et vous êtes beaucoup au CPU à organiser ce type de sortie ?
Oui, alors actuellement, en comptant des personnes qui sont en stage aussi, on a à peu près 10 salariés, enfin salariés et stagiaires au CPU. Et du coup, on a tous nos domaines de prédilection. Donc moi, ça va être vraiment le potager, enfin l'agroécologie et tout ce qui est santé et environnement. J'ai des collègues qui vont être plus sur les chauves-souris et les amphibiens. Il y en a d'autres qui vont être vraiment sur l'agriculture et la gestion de l'eau. On a tous nos domaines. Après, on est tous dans l'environnement, donc on peut intervenir un peu sur tous les champs de compétences. Mais on est vraiment tous très spécialisés sur une ou deux choses, en fait.
Et vous avez suivi une formation pour être à ce poste au CPE ? Parce que j'ai l'impression que vous parlez de choses que vous connaissez par cœur. Et en plus, vous êtes assez jeune, donc c'est quand même réjouissant, en fait, de se dire que ben voilà, c'est une génération qui va à fond pour essayer de travailler pour l'environnement.
Mais il faut. Hein. Il faut, après, alors pour rentrer au CPE spécifiquement, il n'y a pas de formation pour y rentrer. Par contre, moi, j'ai fait un BTS, gestion et protection de la nature. Après ce BTS, j'ai fait une formation pour adultes pour me former à la coordination de projet. Et suite à ça, j'ai roulé ma bosse, j'ai été dans 20 de structures et j'ai découvert le monde de l'agroécologie en fait grâce à une structure dans le 94 où on était un centre d'accueil pour les classes vertes. Et en fait, mon directeur à l'époque était un ancien maraîcher à son compte en agroécologie. Et en fait, il m'a pas formé pour faire un potager pédagogique lambda, il m'a formé en tant que, comme si j'étais maraîchère en fait. Donc c'est lui qui m'a tout appris sur l'agroécologie. Mmh. Et du coup, ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que maintenant, dès que je passe dans une autre structure, j'essaye de rajouter cette compétence-là au sein de la structure.
Et vous avez vous-même un potager ?
Oui.
Oui ?
Il est commencé, parce que j'ai emménagé dans l'Oise seulement en août. Donc là, pour l'instant, tout n'est pas démarré. Tous mes semis sont démarrés, j'en ai énormément. Mais il est en train de se démarrer. Et du coup, c'est pour ça, là, j'en parle aussi pendant la conférence. Parce que... moi j'ai fait plein de potagers mais pour d'autres gens que moi. Là je fais enfin le mien et du coup je parle aussi de ce que je suis en train de faire actuellement parce que là je suis en phase de démarrage. C'est rassurant pour les gens en disant mais regardez, je connais mais je viens de démarrer et je fais des bêtises aussi en fait et parler de l'évolution de ce potager et ça va me suivre tout au long des conférences donc ça va être plutôt intéressant.
Bah ouais, de communiquer votre propre expérience et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et de pouvoir le communiquer aux
autres.
C'est ça, quoi.
Exactement.
C'est génial. Bon, écoutez, merci beaucoup Sarah et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
On écoute le début de la conférence de Sarah Bonenfant du CPU Oise autour du sol et du sol vivant.
Moi j'ai parlé, en fait c'est un sol vivant pour mieux produire ou les bases de l'agroécologie. Un sol vivant, en fait, c'est un sol qu'on ne va pas travailler. On va partir de la base de notre sol. Donc on va apprendre sa vie et comment il fonctionne. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien compris comment il fonctionne, on va voir comment le protéger et l'améliorer. Donc, le sol, je disais, c'est la base de tout. Partout où on ira sur la planète, à part si on va dans les dunes de sable ou dans le désert du Sahara, bien évidemment, mais sinon partout, l'organisation est faite comme ça. Donc un sol, la première couche, c'est comme un petit lasagne. La première couche, c'est ce qu'on a appelé la litière. Là, on voit bien les feuilles au-dessus. Ça, le parfait exemple, c'est quand on va en forêt, on le voit, les feuilles des arbres, mais en forêt, il y a toujours un petit lit de litière, un petit lit de feuilles comme ça. Donc ça, c'est la litière. Juste sous cette litière, il va y avoir les premiers décomposeurs qui vont venir, donc juste ici, les décomposeurs et les débris végétaux. En fait, les décomposeurs vont venir monter, vont venir grignoter dans cette litière, et ils vont faire cet horizon-là, ça s'appelle l'horizon organique. Donc là, c'est très très riche en matière organique, et c'est une matière organique très peu décomposée, on le voit en forêt, hein. On a les feuilles sur le dessus, on gratte un peu, on voit que ça commence à décomposer, mais on reconnaît encore des morceaux de feuilles. Donc ça, c'est vraiment juste des débris végétaux, donc horizon organique. Juste en dessous, on va avoir ce qu'on appelle l'horizon humifère. Vous avez déjà entendu parler, je pense, de l'humus. En fait, c'est ça. C'est l'humus, la terre bien noire. Du coup, là, c'est la décomposition de la matière organique. Oui, donc c'est toute la matière organique qu'on avait là, qui s'est fait décomposer par les êtres vivants, dont on parlera juste après. Et donc là, c'est un support de culture très très riche. Là, elle est complètement décomposée et ça veut dire que c'est des nutriments qui sont là directement disponibles pour la plante. Avant, la plante, elle ne peut pas prendre les nutriments qu'elle a dedans. C'est pas suffisamment décomposé pour elle. Elle les prend là-dedans. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les régulateurs biologiques. On va avoir les protozoaires. Les protozoaires, on peut assimiler ça comme une sorte de bactérie. Ensuite, on va avoir les nématodes. Donc, il y a le mauvais nématode qui, lui, va rentrer par les racines et va manger la plante par les racines. Donc, lui, j'ai pas envie d'avoir. Et il y a le bon nématode qui, lui, attention, il mange les mauvais nématodes. On va voir les acariens. Les acariens, hein, il y en a partout autour de nous, sur notre peau, sur nos habits, dans la terre. Ils sont très importants. On a tendance à voir qu'ils sont néfastes, mais dans le sol, ils sont très très importants. On va voir les colamboles. Donc là, les colamboles, on commence à pouvoir les voir à l'œil nu. Donc le colambole est très très intéressant. On en trouve beaucoup dans les composts. On n'a pas l'impression que c'est ça. On voit plein de petits points blancs qui bougent partout. C'est des super décomposeurs. Et ensuite, on va voir les larves de carabes. Donc eux, ils sont plus grands. Donc c'est bien de larves, c'est-à-dire que c'est un bébé. Dans le potager, il y a plein de gens, quand ils les voient, ils disent « Ah, oh, ils vont manger mes légumes !» Et ils les tuent ou ils les jettent. En fait, non, eux, ils mangent pas les légumes, ils mangent uniquement la matière organique, la matière en décomposition, en fait. Donc, si j'ai beaucoup de larves de carabes, c'est très 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 bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nourriture pour eux, que je vais avoir un sol très riche. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réguler la communauté microbienne. Notamment, comme je disais, comme pour les nématodes, si des nuisibles microscopiques des cultures, eux, ils vont pouvoir en fait venir les grignoter, donc les éliminer, donc c'est hyper intéressant. Et ils vont aussi réguler la disponibilité des nutriments, c'est que comme tous les tout premiers champignons et bactéries, ils vont consommer aussi une matière organique, ils vont la relâcher sous forme de nutriments. Plus j'ai de vie dans mon sol, plus mes plantes vont être en forme.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à la mairie de Clairoy pour une conférence organisée par le CPIE Oise avec Sarah Bonenfant sur la thématique du potager en agroécologie. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.